Et prier, c'est justement le thème que nous allons aborder ce soir. Mais en fait, donc, ça va être dans la continuité de ce qu'on a vécu depuis le tout début du culte. Puisque donc, si votre mémoire n'est pas défaillante, vous allez vous souvenir qu'en début du culte, Anne nous a fait répéter à plusieurs reprises une phrase de la Bible qui revenait régulièrement dans le psaume, qui était « Car son amour dure à jamais ou pour toujours. » Donc, c'est encore dans ce thème de l'amour que nous allons regarder la prière ce soir, puisque finalement, cet amour de Dieu pour nous est le fondement de beaucoup de choses, y compris notre vie de prière. Donc, si nous acceptons cet amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ, qui nous offre en Christ, si nous répondons à cet amour, parce que la Bible nous dit que si nous l'aimons, c'est simplement parce que lui, il nous a aimés le premier, ben, notre compréhension, notre expérience, notre connaissance personnelle de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous va transformer notre vie. Ça transforme notre manière d'apercevoir notre vie, ça change complètement la valeur que nous voyons dans notre propre vie, ça transforme notre manière de vivre, car devant un tel amour, on ne peut que répondre positivement et on veut donc exprimer notre amour envers lui, entre autres par nos louanges, mais aussi par notre obéissance. Donc, ce verset qu'on avait regardé il y a quelques semaines, qui parlait de notre connaissance de l'amour de Dieu, ça transforme tout. Et ça transforme aussi notre vie de prière. Alors, ce soir, nous allons lire en Matthieu chapitre 7. On va lire d'abord les versets 7 à 11. Et c'est donc vers la fin de ce qui est souvent connu comme le sermon sur la montagne, où Jésus était en haut d'une montagne et appelle ses disciples à lui. Et puis, leur enseigne la nature du royaume de Dieu. Et donc, en Matthieu 7, 7, il leur dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc, en fait, dans ce sermon sur la montagne, qui fait les chapitres 5, 6 et 7 du livre de Matthieu, on trouve au moins deux enseignements sur la prière, sinon trois selon votre manière de diviser les textes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout l'enseignement de Jésus dans ce sermon concernant la prière est ancré dans la même réalité. Jésus dit, tout ce qui a à voir avec la prière a comme fondement notre relation avec le Père. Et donc l'amour du Père pour nous. On vient de voir dans le chapitre 7, il parle de l'amour du Père et comment ce Père dans l'amour répond à notre égard. Et puis, si on regarde les autres enseignements de Matthieu 6, verset 6 par exemple, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Puis donc on a vu chapitre 7, ton père donnera ce qu'il faut, votre père qui est dans les cieux, il vous donnera de bonnes choses. Et bien évidemment, il y a aussi le chapitre 6, verset 9, où Jésus dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc, tout ce que Jésus enseigne au sujet de la prière, il le fonde sur cette notion de relation, sur le fait que Dieu soit notre Père, sur l'amour que le Père a pour nous et qui s'exprime envers nous, et auquel nous répondons par la prière. Et c'est donc important de se rappeler ce fondement-là lorsque nous prions, lorsque nous pensons à notre vie de prière. Parfois, on peut être tenté de venir à Dieu comme un tyran à qui nous devons essayer de tendre le bras pour réussir à décrocher quelque chose. Mais Jésus ne dépeint pas du tout la prière comme étant une tentative de forcer le passage chez un tyran et de l'obliger de faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Il parle d'un père qui aime ses enfants et qui donne de bonnes choses à ses enfants et qui invite ses enfants à venir lui parler. Voici donc comment vous devez prier notre Père. On ne vient pas non plus, Jésus ne nous présente pas non plus la prière comme le fait de venir devant une espèce de distributeur automatique, où simplement, par notre prière, ben, on appuie sur le bouton et on reçoit, comme par magie, automatiquement ce qu'on a demandé. Mais la prière est fondée dans cette relation que nous avons avec notre Père. Ce que Dieu désire avant tout, c'est cette relation d'amour. Et donc la prière est une extension de cette relation. Il nous invite à venir à lui en tant que ses enfants qui viennent à leur père, qui en plus est un père qui, on a vu, nous aime et qui donc donne de bonnes choses à ses enfants. Donc, si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines de là, on avait regardé ensemble Éphésiens, chapitre 3, les versets 17 à 19, où Paul est en train de prier pour les chrétiens, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître, donc faire expérience personnelle de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si nous arrivons vraiment à comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, cela va impacter notre vie de prière. Et plus nous commençons à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, plus notre vie de prière sera impactée. Premièrement, en ce qui concerne notre manière de venir à Dieu. On vient de voir que Jésus ne nous dépeint pas la prière comme le fait d'essayer de tordre le bras à un tyran qui ne veut pas nous donner quelque chose de bien. Ce n'est pas non plus ce distributeur automatique où il n'y a pas de relation, il y a juste un marché conclu pour avoir ce qu'on veut. Dieu nous invite dans sa présence. Il dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Important de se rappeler devant qui nous venons, de se rappeler que c'est notre Père, c'est ce Père qui nous aime, c'est ce Père qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, Jean dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si nous commençons à nous rendre compte que prier, c'est venir devant notre Père qui nous aime, si nous commençons à comprendre quelle est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'avoir crainte, d'avoir peur de venir à Dieu. Nous pouvons venir sans crainte parce que, j'en dis, la crainte suppose un châtiment. Mais si on a compris la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, nous savons qu'il n'y a plus de châtiment à craindre pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que Dieu, dans son amour, nous a fait grâce en envoyant Jésus-Christ afin qu'on ne périsse point pour notre péché, mais pour qu'on reçoive en lui la vie éternelle. Donc il n'y a plus cette crainte à avoir d'un châtiment de sa part. Il y a au contraire le fait d'entrer dans la présence de notre Père qui nous aime plus que tout. Romains chapitre 8, verset 15 nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus disait, lorsque tu pries, prie notre Père. L'Esprit est l'Esprit d'adoption. Lorsqu'on comprend l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, on se rend compte qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de cet amour et donc nous avons ce libre accès auprès de lui parce que nous n'avons point reçu un esprit de servitude. On n'est plus des esclaves qui doivent venir justement devant ce tyran dont on a peur. On est invité dans la présence de notre Père qui nous aime parce que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et Paul emploie ce terme à nouveau en Galates chapitre 4, versets 6 et 7, où justement il dit « parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons venir devant notre Père avec une totale confiance. Parce que nous venons devant ce Père Abba qui nous aime, qui a fait de nous ses héritiers, qui nous a adoptés par l'Esprit de son Fils. Donc cela nous permet de nous approcher de lui en toute simplicité. Si Dieu nous aime autant qu'il le dit dans sa parole, on n'a pas besoin d'avoir peur d'employer un mot qu'il ne faut pas, ou une formule qu'il ne faut pas, ou d'être dans une position qu'il ne faut pas, ou être dans un lieu ou en train de demander quelque chose qu'il ne faut pas. Notre Père qui nous aime nous invite à venir en toute simplicité, comme un enfant vient dans la présence de son Père lorsque la relation enfant-père est normale et ancrée dans l'amour. Hébreux, chapitre 4, verset 16, nous dit justement « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Peu surprenant que l'apôtre Paul prie pour les chrétiens que nous puissions comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et en faire l'expérience personnelle, parce que plus nous comprenons cet amour, plus nous osons nous approcher de lui en toute confiance, avec assurance devant ce trône de la grâce. Ou comme c'est écrit en Hébreux chapitre 10, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire. » L'auteur nous dit « Puisque Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » La possibilité de venir quand on veut, où qu'on soit, quelles que soient les circonstances. Pas besoin de préparer un grand discours. Il nous invite comme ses enfants à venir. Vous savez, parfois, quand il y a les petits-enfants, ils n'ont rien à faire si vous êtes au téléphone avec un ami, un membre proche de la famille, le grand-duc, ça leur est complètement égal. Eux, ils veulent venir te dire quelque chose. Et ils n'ont pas crainte de venir. Ils viennent et ils profitent de cette relation d'amour pour dire ce qu'ils ont à dire. Jésus dit, lorsque tu pries, dis, notre Père. Ça nous rappelle cette relation que nous avons, ce privilège que nous avons d'être des enfants adoptés de Dieu, pouvant entrer dans sa présence à tout instant pour lui parler. C'est ça l'image que Jésus nous présente aussi dans cet enseignement en Matthieu 7. Il dit tout simplement, demandez et l'on vous donnera. Est-ce que nous sommes tellement à l'aise dans l'amour de Dieu que nous avons cette conviction que, au moins, si c'est bon pour nous, on verra ça tout à l'heure, demandez et on vous donnera. Il ne dit pas adresser une requête en triple avec toutes les formules de politesse qu'il faut, mais demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Comment peut-on avoir cette confiance? Parce que nous savons celui devant qui nous venons pour prier. Nous avons cette assurance qu'il s'agit non pas de n'importe qui, mais de notre Père qui nous aime à tel point qu'il a donné son propre Fils pour nous. Et qui nous a adoptés et a fait de nous ses héritiers sur le même statut que Jésus. Aujourd'hui, on a eu la journée du parcours Alpha, donc qui vient une fois pendant le parcours. On prend toute la journée du samedi. Il y a quelques semaines, dans le parcours Alpha, lorsqu'on était en train de regarder la prière, ils ont cité l'histoire d'un soldat pendant la guerre civile aux États-Unis. Et ce soldat était assis dans un parc un jour sur un banc en train de pleurer parce qu'il avait perdu ses frères dans la guerre. Et donc il était le seul des frères qui restait. Et donc, il voulait demander la permission de retourner travailler sur la ferme de famille. Mais finalement, donc, aucun des officiers sur place ne voulait lui donner la permission. Il n'avait qu'une possibilité de recours, c'était d'avoir une autorisation personnelle signée par le président des États-Unis. Donc, il a fait le voyage jusqu'à Washington, mais là, même problème. Vous imaginez, même à l'époque, surtout en temps de guerre, toutes les procédures qu'il fallait respecter pour arriver à voir le président des États-Unis, pour parler avec lui. Et donc, toutes les portes lui étaient fermées. Et donc, il avait dû abandonner l'idée de rencontrer le président, demander la permission de retourner auprès de sa mère sur la ferme. Et donc, il était en train de pleurer sur ce banc dans le parc lorsqu'un petit garçon le voit et vient lui demander pourquoi il pleure. Donc, il raconte l'histoire à ce garçon. Et le garçon lui dit, viens avec moi. Et tout d'un coup, ce garçon le permet de traverser la porte, non pas de devant, mais la porte personnelle à l'arrière de la Maison Blanche, de traverser le couloir, de passer devant tous les officiers qui jusque-là avaient refusé net que ce soldat puisse rencontrer le président. Il l'emmène jusqu'à une certaine porte qui était la porte du bureau du président et toque à la porte et puis il entre directement. Il n'attend même pas que quelqu'un lui dise d'entrer, il y va. Et il emmène le soldat avec lui. Et donc, vous imaginez en temps de guerre, le président est là, penché sur des cartes avec tous les officiers gradés. Mais lorsque ce garçon rentre dans son bureau, il lève le regard et le garçon lui dit, Papa, cet homme a besoin de parler avec toi. Alors, eux, ils ont utilisé ça pour nous dire que donc, c'est comme ça lorsqu'on prie avec Jésus. Jésus nous ouvre cette libre entrée dans la présence de Dieu. Jésus, donc, nous accueille, nous emmène jusqu'au Père. Mais finalement, on peut aussi voir la liberté avec laquelle un enfant est prêt à aller déranger son père, même si son père, c'est le président des États-Unis en temps de guerre, il est prêt à aller le déranger avec toute simplicité. Pourquoi? Parce que c'est son père. Parce qu'il n'a pas peur, il n'a pas crainte à cause de l'amour de son père. Donc il y va. Parce qu'il sait qu'il a le droit. Parce qu'il est fils. Parce que son père l'aime. Jésus donc ancre tout son enseignement sur la prière dans ce même genre de relation. C'est pour ça que Jésus dit dans le chapitre 6, quand tu pries, tu n'as pas besoin d'être entendu des autres. Bon, on sait que l'apôtre Paul après va ajouter que bon, si c'est dans l'église, on est aussi en train d'édifier nos frères et sœurs, donc c'est mieux s'ils peuvent entendre pour pouvoir dire Amen. Mais il dit, vous n'avez même pas besoin de le faire pour que quelqu'un d'autre t'entende. Tu peux entrer dans ta chambre, fermer la porte et prier ton Père, parce que ton Père est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc lorsque vous priez, priez notre Père. Donc le fait de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous transforme notre manière de nous approcher de Dieu, de venir à Dieu, ça transforme également nos attentes de Dieu dans la prière. Si vraiment, comme le prie l'apôtre Paul, nous sommes ancrés dans l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il dit dans sa prière, donc je prie qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Si nous sommes ancrés donc dans son amour, non seulement nous pouvons venir dans sa présence avec confiance, mais nous pouvons demander avec confiance. C'est ce que, il souligne dans les versets 9 à 11 du chapitre 7. Il dit demandez. Car lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, donc pécheur, imparfait, avec nos limitations, avec des limites à notre patience et à notre amour, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous pouvons donc prier avec confiance, lui demander avec confiance, parce qu'il s'agit de notre Père, auprès de qui nous sommes en train de demander ces choses. Ce n'est pas même juste le Dieu Tout-Puissant, mais c'est ce Dieu Tout-Puissant qui est en même temps notre Père, qui nous aime et qui nous invite, en tant que ses enfants d'adoption, à venir avec toute simplicité, demander, chercher et frapper. Nous pouvons donc avoir cette confiance que si nous demandons, et c'est là où il est important de prendre en compte tout ce que la Bible dit sur un sujet, et non pas juste inverser et oublier tout le reste, si nous demandons quelque chose que notre Père considère bon pour nous, nous avons cette confiance que puisqu'il s'agit de notre Père, il nous le donnera. Parce qu'il n'a aucune raison de ne pas nous le donner. Si nos enfants nous demandent quelque chose qu'on sait n'est pas négatif, qu'on sait peut être bon pour eux, si on peut, on est prêt à le faire parce qu'on les aime. On n'a pas besoin d'avoir cette peur de douter que Dieu voudrait nous donner de bonnes choses. Il est notre Père qui nous aime. Il dit, vous, déjà, avec vos limitations, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous pensez que moi, je serai différent? Je ne suis pas plus pingre que vous. Bien au contraire. Si vous êtes capable de le faire, moi, je suis infiniment plus capable de le faire. Alors, c'est vrai donc 1 Jean 5, versets 14 et 15, mais juste le petit condition, la petite condition, en disant nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu ne donne pas de chèque en blanc en disant « Demandez-moi ce que vous voulez. Vous voulez que je vous donne une voiture qui est trop puissante pour que vous puissiez le contrôler ? Pas de souci. Vous voulez que je vous donne un travail qui vous donnera tellement de travail que vous n'aurez plus de temps pour votre famille et où vous aurez tellement d'argent que vous ne saurez plus quoi faire à part des bêtises ? Allez-y, demandez. » Ah non. Il dit « Demandez ce qui est selon ma volonté, parce que je vous donnerai de bonnes choses. » Il dit justement « Je ne donnerai pas une pierre ou un serpent à mon fils. » C'est là où encore cette histoire d'être ancré dans l'amour infini de Dieu pour nous ôte toute crainte, ôte tout doute, nous donne cette base de confiance et d'assurance, nous pouvons faire confiance à notre Père. Que si même il disait non, ce ne serait pas parce qu'il ne veut pas nous donner quelque chose, mais ce serait parce qu'il veut nous donner quelque chose de bien et non pas quelque chose de mauvais. Romains 8, versets 28-29, nous aide à comprendre ce que ça veut dire que Dieu nous donne de bonnes choses lorsque nous lui demandons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est quoi ce bien, notre bien, où même Dieu a promis de nous donner tout ce que nous lui demandons qui va dans ce sens? Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ça veut dire Dieu est toujours prêt à nous donner ce qui est bon pour nous, ce qui va nous rendre plus semblables à Jésus-Christ. Mais comme on a vu il y a quelques semaines, là aussi, ça nécessite cette relation d'amour, la confiance qui découle de cette relation d'amour pour pouvoir dire, Seigneur, il y a des choses où, avec mon point de vue, avec les éléments que moi j'ai en main, je ne comprends pas. Mais je suis assuré que tu es mon Père qui m'aime. Je suis ancré et fondé, enraciné et fondé dans ton amour. Et donc je sais que tu as promis de donner de bonnes choses à celui qui demande, à celui qui frappe. Donc je sais que si tu me dis non, tu as tes raisons. Et tu as raison. Et je peux te faire confiance. L'ennemi cherchera toujours à nous dire que c'est la preuve que Dieu ne nous aide pas. Mais Dieu dit au contraire. C'est parce que moi, mon objectif, moi, mon plus grand bien pour vous, c'est que vous puissiez ressembler à l'image de mon Fils Jésus. Je vous ai sauvés afin que lui, il soit le premier de beaucoup de frères. Dieu nous aime tellement que nous pouvons lui faire confiance lorsque nous venons devant lui pour prier. Un peu plus loin, Romains 8, verset 32, nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Généralement, si vous avez beaucoup investi dans un projet, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour réaliser, finaliser ce projet. Dieu est pareil. Il a donné ce qu'il a vu du plus cher. Il a donné son Fils unique pour nous. Pas besoin de craindre que du coup notre Père qui nous a adoptés en Jésus-Christ ne fera pas ce qui est bon pour nous. Donc, laissons l'Esprit effectivement nous convaincre de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, afin d'être vraiment enracinés, fondés dans cet amour, pour que cet amour et notre expérience personnelle de cet amour puissent transformer notre vie tout entière, y compris notre vision de la prière et surtout notre vie de prière. Que notre vie de prière puisse simplement découler, être la conséquence de cet amour de Dieu pour nous.